Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Les grands-parents sont aujourd'hui en première ligne dans la vie familiale, encore en activité pour certains, jeunes retraités pour d'autres, pris en étau entre leurs parents âgés, leurs enfants et leurs petits-enfants, qui comptent sur eux, difficile de trouver leur juste place. Grands-parents, trouver leur juste place. C'est le sujet que nous vous proposons aujourd'hui dans Vivante Église. Pour nous guider dans cette réflexion, j'ai la joie de recevoir le Père Michel Martin Prével de la Communauté des Béatitudes. Bonjour Père.
Bonjour.
Et je précise que vous êtes là aussi au titre de grand-père. Puisque,
surtout.
Voilà, surtout parce que vous avez 8 petits-enfants.
Hein. Voilà.
Vous animez notamment aussi des retraites Anne et Joachim pour les grands-parents, nous en parlerons. À vos côtés, Jean-Daniel et Delphine Leroy, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Isabelle,
vous
merci
êtes,
de nous accueillir.
Avec joie, vous êtes grands-parents de 6 petits, vous êtes jeune retraité, voilà, depuis 2 ans, on en parlait juste avant cette émission. Vous êtes notamment engagé à l'association L'Oasis, qui est un lieu d'écoute et d'accompagnement familial à Toulouse. Vous proposez des ateliers pour les grands-parents sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous en parlerons aussi. Pour commencer, je m'adresse peut-être d'abord à vous, Père Michel Martin Prével, parce que vous rencontrez beaucoup de grands-parents dans les retraites que vous animez, et puis aussi dans l'accompagnement spirituel. Que vous partagent-ils, ces grands-parents, de leurs difficultés et de leurs besoins par rapport à cette juste place ?
Eh bien, c'est vrai que je me suis longtemps occupé de couples, de couples en difficulté, avec le parcours Toby et Sarah, des retraites de famille. Bon, ça fait donc longtemps. Et puis parce que moi-même, je suis aussi un grand-père, donc j'ai touché du doigt cette réalité. Et je vois qu'effectivement, pas grand-chose ne leur est proposé, alors que de plus en plus, ils ont beaucoup de choses à tenir. Voilà. Ils deviennent des chevilles, des espèces de chaînons manquants dans les familles qui prend de plus en plus d'importance. Parce que plus qu'autrefois, peut-être les parents ont besoin de leurs propres parents, peut-être souvent un peu trop pour faire des nounous. Et ça, c'est dommage parce qu'ils ont autre chose à faire que d'être des nounous. Et donc, il y a à la fois ce côté magnifique des grands-parents. Il y a l'émerveillement, il y a retrouver toute une petite jeunesse qu'on a un peu perdue. Et donc, c'est très beau, c'est tellement naturel. Et ça fait un tel bien aux grands-parents. On voit la souffrance de beaucoup de grands-parents qui n'ont pas leurs petits-enfants parce qu'ils sont trop loin ou parce que les enfants ne leur donnent pas beaucoup. Voilà. Donc il y a cette souffrance-là, et en même temps, il y a de l'inquiétude, parce qu'on sait, bon, on le dit, c'est classique, que ce monde est un peu difficile, et les grands-parents portent aussi très fort cette inquiétude pour l'avenir des petits-enfants, et donc c'est là aussi qu'ils peuvent être des artisans de paix, mais aussi des forces de prière au cœur de la famille. Mmh. Voilà, on en reparlera, parce que cette mission aussi vis-à-vis de la foi me semble aussi assez importante.
Bien voilà. Sûr. Oui, oui. Pour vous, Jean-Nadiel et Delphine, quel constat vous faites de ce costume de grands-parents ? Est-ce qu'il vous va ? Ou est-ce qu'au contraire, parfois, il est trop encombrant ?
Non, il est important, c'est sûr. Mais bon, d'abord, c'est surtout une grande joie, je pense, d'être grand-mère et d'être grand-parent. C'est une chance. Mais c'est aussi beaucoup de questions, en fait, parce que d'abord, je trouve que nos enfants manquent terriblement de temps pour eux. Pour leur couple. Et donc, on essaye d'être disponible comme on peut. Alors nous, on est écartelés entre la Bretagne et Toulouse, puisqu'on a des petits-enfants à Brest et des petits-enfants à Toulouse et à Paris. Voilà, donc on fait ce qu'on peut.
Ça implique des déplacements, Jean-Daniel ?
Oui, je reprends un petit peu ce que disait le père. Nous devons adopter notre costume de grands-parents. Comment est-ce qu'on vit ça? Je crois que le rôle important, effectivement, c'est ce terme qu'a utilisé le père, c'est le terme de cheville. Et comment est-ce qu'on remplit ce terme de cheville? La difficulté, je pense, du rôle de grands-parents, c'est que cette cheville, elle doit être articulée différemment selon les enfants et les petits-enfants auxquels on s'adresse. Et nous avons différentes fratries dans notre famille et chaque fratrie réagit différemment. Donc ce rôle de cheville, il est important, je pense, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, nos enfants ont pas beaucoup de temps, ont de la difficulté en tout cas à gérer le temps. Et donc la difficulté et le challenge et ce qui est intéressant et ce qui est joyeux et ce qui est motivant, c'est ce rôle de cheville que nous devons jouer.
Mmh. Mmh. Oui, oui. Être à sa juste place, c'est d'abord certainement bien délimiter le rôle de chacun. Être grand-parent, ce n'est pas être parent. Et pourtant, les premiers, vous le disiez, hein, Père Michel Martin Prével, sont souvent appelés à garder leurs petits-enfants. On dit qu'ils sont... Enfin, vous disiez que c'était des nounous. Et c'est vrai que Yves Boutonnat, qui est l'ancien président de l'école des grands-parents européens, disait « Les grands-parents souffrent d'être traités surtout comme des prestataires de services. Voilà. » Et parfois d'un chantage affectif pratiqué par les enfants. Comment les grands-parents peuvent-ils donc affirmer leur rôle dans l'éducation, mais sans pour autant empiéter sur l'éducation qui est quand même le devoir des parents en premier lieu.
Oui, et dans ce rôle en fait des grands-parents, il n'y a pas simplement faire quelque chose, mais il y a aussi être, parce qu'ils sont... Ils sont le passé aussi, ils sont la génération. Le pape François, vous savez, a beaucoup parlé de cette génération-là. Il était très intéressé par les personnes âgées, les grands-parents. Il a beaucoup parlé de ça. Il est quand même l'inventeur, si je puis dire, des journées mondiales des grands-parents, voilà, enfin des personnes
juillet,
âgées.
Hein.
Et puis il a institué la fête d'Anne et Joachim comme... c'était une mémoire, c'est devenu une fête, voilà. Et puis il a mis en valeur en tout cas ce couple de grands-parents. Il y en a d'autres dans la Bible, mais en tout cas cet accent que l'on voit aujourd'hui qui naît pour s'intéresser à leur rôle, c'est parce que justement ils sont pas là simplement pour boucher les trous, quoi. Et donc ils ont absolument à tenir leur place. Alors on va en parler parce qu'il y a la place aussi peut-être quelquefois d'éduquer qu'ils reçoivent presque de leurs parents, il faut qu'ils le reçoivent des parents, mais en même temps, c'est ce rôle délicat de transmettre ce que ne peuvent pas donner les parents. Sinon, si c'est simplement une aide, c'est pas qu'une aide, ils ont aussi un rôle spécifique qui, je crois, rattache les petits-enfants à un passé, à une histoire, c'est un patrimoine, c'est l'histoire d'une famille. C'est pour ça que les plus beaux moments que les gens disent dans les sondages pour eux, c'est le retour en famille, c'est-à-dire se rassembler en famille autour des grands-parents. Ça constitue dans notre société une sorte de rocher sur lequel on reprend des forces. Et donc c'est un lieu de bonheur. Et ça revient aux grands-parents d'être ces facteurs, ces artisans d'unité pour leur famille. Mmh. De construire une famille sur ce que j'appellerais un esprit de famille. Voilà. Alors chaque famille a son esprit. On le voit bien avec les beaux-enfants, ils arrivent, ils sont dans une autre famille, c'est pas comme ça que ça se passe dans la leur. Et c'est cette richesse qui est très intéressante. Et je trouve que c'est le cœur de l'évangile parce que c'est ça, s'habituer à vivre ensemble, c'est s'habituer à l'altérité. La confrontation, il n'y a pas comme une famille autour des grands-parents, comme toutes ces différences qui sont quelquefois énormes, des différences de culture, voire de religion, des habitudes, il y a tout ça. Il y a les rites familiaux qui sont souvent propres à une famille. Et c'est tout ça sur lequel, je dirais, règne, non pas dans la puissance, mais dans le service. Régner au-dessus de toutes ces générations. Voilà. Et ça s'appelle l'alliance des générations, comme le dit le pape François. J'aime beaucoup cette expression. Voilà.
L'alliance des générations.
Vivre ça et travailler à cette alliance des générations.
Mmh. Vous avez employé ce mot d'être et non pas de faire. Et ça, est-ce que c'est une posture dans cette notion d'éducation qui vous parle, Jean-Daniel et Delphine Leroy?
Alors... on a parlé d'un rôle spécifique. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir un rôle spécifique. C'est un peu au fil de l'eau, et c'est pas toujours un fleuve tranquille d'ailleurs. Quelquefois, les vacances, ça peut être un peu explosif. Bon, d'abord, le rôle qu'on a à jouer, je suis d'accord avec le Père Michel sur cette idée d'un lieu où effectivement on va pouvoir. Faire
se
l'unité
rassembler.
De cette famille plus que vraiment un rôle éducatif. Et puis surtout, effectivement, quand on se retrouve l'été, c'est souvent dans un lieu particulier. Nous, on a la chance d'avoir une maison, on peut réunir tous nos enfants et nos petits-enfants. Là, on fait famille. Et en plus, quand nos enfants nous aident à faire famille, par exemple, cet été, ma fille a organisé deux Olympiades pour tous les cousins, etc., c'était extraordinaire. On avait quatre générations. Ma belle-mère qui a 95 ans.
Tout le monde participe.
C'est littéralement éclaté. Donc, c'était vraiment très chouette. Voilà. Donc, en tout cas, l'important dans notre rôle, c'est pas d'avoir le premier rôle et surtout de pas donner trop de leçons parce que de toute façon, ça fonctionnera pas, je pense.
Vous disiez, Jean-Daniel Leroy, que vous avez donc quatre enfants. Chaque fratrie, finalement, chacun de ces enfants a une façon de fonctionner différente. Et le père Michel Martin Prével disait que les grands-parents apportent ce que les parents n'apportent pas. Comment vous, dans quelle posture vous êtes justement pour apporter ce que les enfants n'apportent pas?
Oui, je crois que notre posture, enfin la posture que moi j'essaye d'avoir, c'est d'être dans une posture d'écoute. Alors, d'écoute des parents, c'est-à-dire observer comment les parents transmettent des valeurs à leurs enfants. Écoute des petits-enfants aussi, parce que je pense qu'on a plus de temps aussi, il faut qu'on soit dans la disponibilité. Et puis, on a aussi un rôle de valeur d'exemple, d'illustration de ce dont on leur parle. Donc, je crois que c'est là où se trouve notre rôle. On n'est pas dans un rôle d'éducateur en tant que tel, bien que, évidemment, on est vigilant sur ces éléments-là. Mais ce qui nous différencie des parents par rapport à leurs enfants, c'est cette disponibilité, cette écoute qu'on doit être capable de leur amener, me semble-t-il. Ceci étant dit, Isabelle, vous parliez des différentes fratries. Mmh. C'est vrai que cette écoute, cette disponibilité, elle va varier d'une famille à l'autre. Mmh. Parce que leurs formes d'éducation ne sont pas les mêmes, parce que leur environnement n'est pas les mêmes, parce qu'ils n'évoluent pas dans le même milieu d'amis, parce que la valeur ajoutée qui est venue compléter, qui est venue former leur couple, est arrivée aussi avec ses propres valeurs. Mmh. Donc c'est là aussi où, dans notre écoute, elle n'est pas toujours facile. En tout cas, elle doit être très différenciée parce qu'elle varie d'un petit enfant à un autre, et en tout cas d'une famille à l'autre. Et ça demande aussi, je pense, de notre part, une certaine coordination. Je parlais de l'écoute des parents, mais c'est aussi une coordination avec les parents, puisque tout ça, il faut que ça soit cohérent et qu'il y ait un échange aussi à ce niveau-là. Donc, et ça, c'est la façon dont je perçois les choses, mais c'est intéressant aussi de voir, on en parlera peut-être après, comment on peut échanger avec d'autres grands-parents, comment on adresse cette diversité qui est un enrichissement, mais qui est en même temps une nouvelle problématique au sein de la famille, tout en voulant créer cet esprit de famille dont vous parliez, voilà. Père.
Mais aussi la différence des âges, c'est extraordinaire, c'est un milieu tellement vivant. Quand on a des petits-enfants, un an, deux ans, trois ans, c'est une façon de se comporter. Et puis, quand ça va grandir, et puis après ça, on a des adolescents. Qu'est-ce que c'est intéressant. Donc, cette variété des âges, je trouve, est une expérience extraordinaire que n'ont pas d'ailleurs les parents. Enfin, ils l'ont moins que nous, parce que nous avons, avec plusieurs fratries, on a quelque chose d'encore plus diversifié. Voilà, donc c'est une très, très grande richesse.
Et est-ce que vous pensez que, finalement, la juste place des grands-parents, c'est plus une posture? Vous parliez d'exemple, mais est-ce que c'est plus une posture que de dire « fais pas ci, fais pas ça » voilà.
Oui, alors évidemment, je pense qu'on peut avoir certaines exigences quand on vit, par exemple, le moment des vacances, je sais pas, la politesse, des choses comme ça.
Oui, parce que vous avez vos propres règles que vous aimeriez voir respectées chez vous, en tout cas, sous votre toit.
Mais en fait, c'est assez amusant parce que nous, on a fait une expérience. J'ai fait une expérience l'été dernier, c'est-à-dire que on a fait un moment démocratique avec mes petits enfants, c'est-à-dire que chacun d'entre eux, on a fait un grand panneau où on a mis des tas de post-it pour dire quelles étaient les règles qu'il fallait respecter dans la maison. Et en fait, ils ont été, ils étaient à fond, ils avaient plein d'idées, ils étaient très créatifs. Et puis finalement, sans doute, bien plus exigeants sur des choses comme la politesse, le respect de l'autre, etc. Donc en fait, il faut souvent leur faire confiance, les écouter. Et justement, par rapport à l'écoute, ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que l'écoute, moi, je préfère écouter les individus que le groupe. Je trouve que quand les grands rassemblements comme Noël, les vacances, etc., on a un petit peu de mal à ce que la parole circule et que chacun se sente écouté. Donc moi, j'aime bien l'écoute individuelle. J'adore passer des petits moments avec mon petit-fils, ma petite-fille, ma fille, ma belle-fille, etc., etc.
Donc à l'occasion d'une promenade.
Voilà, exactement. Voilà, et ça, je pense que ça, et tout ça, ça demande du temps. Donc,
mais ça crée des liens.
Mais ça crée des liens, voilà.
Mmh. Oui. Si je reprends cette juste posture de savoir-être et si je l'applique à la transmission de la foi, que peuvent faire ou dire les grands-parents?
Alors là, c'est quelquefois délicat dans beaucoup de familles parce que justement, aujourd'hui, on sait que d'une génération à l'autre, il y a souvent eu une, entre guillemets, une perte. C'est-à-dire qu'il y a, Il y a en tout cas des gens qui n'ont pas la foi que nous avons, nous. Et c'est aussi bien les beaux-enfants que nos propres enfants qui, quelquefois aussi, se sont au moins éloignés de la foi. Ou tout cas, souvent, ils ont la foi sans la pratiquer, ce qui est encore autre chose. Donc, on voit bien cet écueil au niveau de la foi, que nous avons d'abord surtout pas à faire du catéchisme d'entrée de jeu, parce que c'est pas ça qui est attendu, et parce que les petits-enfants, eux, sont beaucoup plus vierges, eux, peut-être, posent des questions, et ils ont de plus en plus de questions. Je crois que tous les grands-parents disent ça, ils sont assaillis de questions, leurs petits-enfants, et là, il faut pas se cacher, il faut leur répondre, parce que s'il y a une question précise d'un enfant, est-ce que Jésus est Dieu, des questions comme ça, ils sont très théologiens quelquefois, il faut leur répondre. Ça veut dire qu'il faut quelquefois un petit peu se former pour être entre guillemets des catéchètes. Mais c'est parce que c'est à la demande des petits-enfants. Ça peut être aussi à la demande des beaux-enfants, pourquoi pas. Mais il y a surtout, c'est ça que je trouve important, c'est témoigner de sa foi, c'est-à-dire dire pourquoi je crois, et c'est être fidèle. Moi, je vais à la messe le dimanche, il faut que ça se sache dans ma famille. Moi, j'ai la chance que mes petits-enfants vont tous à la messe, mais je vois bien qu'il y a un moment où ça va être une question pour eux, bien sûr. Il faudra que je sois dans la fidélité pour dire pourquoi j'aime la messe. Non pas que je suis fidèle à la messe, mais moi, qu'est-ce que je viens chercher à la messe. C'est aussi avoir le courage de faire un bénédicité dans un repas, même s'il y a un gendre qui n'apprécie pas du tout, mais que s'il n'est peut-être pas en majorité, forcément, il y a quand même quelque chose qui est un vivre en commun, là, qu'il faut pouvoir... Et on parlait tout à l'heure des règles. Bien sûr que là aussi, pourquoi ne pas dire ben, c'est comme ça, chez papa et mamie, voilà, chez bon papa et bonne maman, avant le repas, on fait un petit temps de prière. Voilà, c'est comme ça. Donc, on peut avoir des choses qui s'instituent, et ça fait partie de rites familiaux. Et c'est par ces à côté, je dirais, que la foi peut être une certaine atmosphère, une respiration qui peut rejoindre les uns et les autres. Donc, on est dans le domaine du témoignage beaucoup plus que dans la discussion. Les discussions, il faut beaucoup s'en méfier. Et je trouve que dans les familles, quand elles sont réunies, quelquefois c'est tous ensemble, là, je pense souvent, il vaut mieux éviter les sujets de politique et de religion.
Toujours. Voilà. Ça n'a pas changé.
Et plutôt parler de la vie. C'est-à-dire, et puis surtout, nous, comme grands-parents, c'est dire en quoi nous croyons. Voilà. C'est pas imposer, c'est exposer. C'est pas pareil.
Delphine,
oui, témoigner de sa foi, oui. Mais témoigner aussi de ses doutes, je pense que c'est important. Accepter aussi tous les points de vue, hein, les différents, j'allais dire, états d'âme des uns et des autres. En tout cas, chez nous, on discute beaucoup religion. Parce qu'effectivement, certains ont la foi, d'autres pas.
Et ça se passe
d'autres
bien.
D'autres ont décidé de croire, d'autres n'ont pas pris cette décision, parce que je pense que c'est une décision à un moment donné. Et puis je constate aussi un grand besoin de spiritualité chez les tout-petits. Ils se posent plein de questions. Donc, une année à Pâques, notre petit-fils, au moment de la messe de Pâques, a donné un coup de coude à son grand-père en disant « Papy, c'est quoi la résurrection ?» Du coup, ça a été un grand moment d'explication. Et du coup, c'était trop mignon parce qu'il nous a dit « Mais c'est génial, c'est incroyable, etc. » Comme s'il n'en avait jamais vraiment entendu parler. Voilà, et donc, la réaction de son papa lui a un peu douché ses espoirs, son espérance en tout cas. Donc, c'était difficile, mais voilà, il a vu notre... surtout le point de vue de son grand-père. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Jean-Daniel.
Et de fait, Jean-Daniel Leroy, vous avez, pour répondre à cette question, vous aviez la réponse. Vous saviez l'expliquer avec des mots simples.
Oui, j'ai essayé d'expliquer ça avec des mots simples. Et c'est là où je me suis rendu compte, parce que et c'est là où mon petit-fils m'a dit mais c'est extraordinaire, il faut que j'en parle à papa. Et je pense que c'est là où il ne faut pas qu'on sous-estime la capacité des petits-enfants à comprendre et pas les prendre pour des bébés, quoi. Je pense qu'ils ont une faculté effectivement à se poser des questions qui sont fondamentales. Mais par contre, en termes de témoignage de foi, donc je pense que notre rôle effectivement c'est de témoigner, pas d'imposer, mais de témoigner et d'expliquer. Ce rôle de grands-parents, je pense, est aussi une opportunité pour en reparler avec nos enfants. Parce que eux rentrent dans un rôle d'éducateur, ils ont ce rôle d'éducateur qu'ils n'avaient pas avant, évidemment. Et donc, au niveau de la foi, je pense que c'est une occasion non seulement d'en parler à la génération de nos petits-enfants, mais aussi de nos enfants. En tout cas, de ceux qui se posent des questions. Mmh. Il y en a qui ne se posent pas de questions, qui sont peut-être très engagés, etc. Auquel cas, c'est peut-être nous qui avons à apprendre d'eux. Mais pour ceux qui se posent des questions, je pense que c'est une bonne opportunité d'en parler avec nos enfants. Et notre rôle de grands-parents, ça reste effectivement le témoignage. On n'est pas là pour exiger, mais on est là pour témoigner.
Je vous propose de marquer une pause dans cette émission. Père Michel Martin, Prévelle Jean-Daniel et Delphine Leroy. Nous écoutons Le sens de la famille, interprété par Grand Corps Malade et Leïla Bekti.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard, si t'aimes. Si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui ne me fasse plus de peine qu'imaginer leur visage au moment où ils ont appris que mes 20 ans seraient cruels, que mon avenir s'annonçait terne. Le drame, ça se partage, mais ça n'apaise pas l'esprit. Ils m'ont transmis tout ce que j'aimerais transmettre à mon tour. C'est grâce à eux, si je suis en paix, que je pars pas en vrille. Leur humanité sans trompette, leur bienveillance sans détour. Ce que je leur dois, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
Évidemment, quand t'es maman, ton cœur explose et pour toujours. On te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement. Tu savais pas que c'était possible de générer autant d'amour. Je trouve pas de mots assez forts, c'est tellement, tellement.
Et évidemment, quand t'es daron, toutes les cartes sont redistribuées. Ils sont dans ma tête, dans mon ventre, dans mon sang chaque seconde. Je n'ai plus qu'eux comme certitude, il va falloir m'habituer. J'ai découvert les liens invisibles et les plus solides du monde.
Les enfants, c'est des galères qu'on pouvait même pas concevoir.
Ils nous rendent complètement ouf, mais en un sourire, on vacille.
T'as qu'une envie, c'est qu'ils s'endorment. Et dès qu'ils dorment, tu veux les voir.
Eh ouais, on est devenus ceux qu'on chambrait. Je crois qu'on a le sens de la famille. Et le sens de la famille, c'est aussi le sens de l'amitié. Je peux te présenter des frères et sœurs qui n'ont pas le même sang. Frères d'espoir, sœurs de cœur, frères de galère ou de quartier. Faire des projets d'adultes dans des cerveaux d'adolescents.
La famille, c'est aussi ceux qui sont devenus essentiels. Ceux qui te connaissent, te révèlent, te soutiennent et te protègent. Ceux qui te parlent la bouche fermée, parce que le cœur s'en mêle. Si tu veux signer avec moi, faut signer avec tout le cortège.
Repose-toi bien, ma chérie. À bientôt, Charles.
Ça me rappelle, s'il te plaît.
Au revoir. Merci pour le cadeau.
Va manger, vas-y, viens, je t'attends.
Salut, on a voiture.
On arrive, bisous.
Je suis trop heureuse pour toi, ma sœur.
C'est toi qui m'emmène au foot.
Rendez-vous, s'il te plaît, j'ai trop envie de voir le dernier épisode.
Ouais, frère, rappelle-moi, je crois que j'ai trouvé une bonne idée pour le
film. Où passe mon ref?
D'abord, on va à la séance de 19h30, et puis après, on mange.
Ma sœur, t'es où?
Papa, on mange devant la télé ce soir.
C'est fou.
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Pour parler de la juste place des grands-parents par rapport à leurs enfants et petits-enfants, nous sommes en compagnie du père Michel Martin Prévelle, Jean-Daniel et Delphine Leroy, tous trois grands-parents. Nous parlions juste avant la pause musicale du témoignage de foi des grands-parents. Quelle place peut prendre la prière dans ce témoignage justement, père Michel?
Alors pour moi c'est assez capital parce que d'abord je constate que beaucoup de grands-parents sont tout à fait à la pointe là dans cette espèce de combat dans la prière pour tenir leur famille, leurs petits-enfants, et quand les petits-enfants vont grandir, c'est des adolescents, ils passent par tous ces moments de crise, de confrontation au monde. Et là, les grands-parents, c'est souvent à distance d'ailleurs, et c'est pas forcément parce qu'ils leur disent tout ce qu'ils vivent, mais c'est parce qu'eux-mêmes se mettent à prier. Vous savez, l'image, c'est Moïse qui est sur le bord de la montagne, hein, il élève les mains pendant que dans la plaine, eh bien, on est en train de mener un combat. Eh bien, nos familles sont comme ça, elles ont leur rythme, etc. Et nous, nous avons ce temps, grands-parents en principe, pour pouvoir donner notre part à ceux qu'ils vivent, mais sous l'angle de la prière. C'est-à-dire que nous sommes des intercesseurs. Et il faut croire à cette puissance de la prière, de l'intercession. Alors moi, je suggère que les grands-parents le disent, ça, qu'ils prient pour les enfants, pour un tel. Et quand il y a tel ou tel combat à vivre, telle ou telle difficulté, les petits-enfants peuvent prendre conscience qu'ils s'appuient sur leurs grands-parents. Et pourquoi pas faire un petit SMS, passer un petit moment, un petit coup de téléphone pour demander la prière à son grand-père ou à sa grand-mère parce qu'on va passer un examen, etc. Et donc, ça crée un lien qui est autre que simplement ceux qui nous donnent de la tendresse et des cadeaux à Noël. C'est autre chose. Et donc, ça, et surtout, c'est aussi, au passage, aussi un témoignage de foi parce que c'est cette fidélité dans la foi des grands-parents qui très souvent suscite toute la question spirituelle. Et on le voit, vous savez, dans les JMJ, dans les rassemblements de jeunes, et ces jeunes aussi qui demandent le baptême, très très souvent, c'est ils vrai. Parlent de leurs grands-parents. C'est impressionnant, impressionnant. Oui. Forte proportion de jeunes qui disent « Ma grand-mère, elle récitait le chapelet tous les jours, mon grand-père, il allait à la messe, etc. » Et ça les a frappés. Oui. Et donc là, on est dans le témoignage, on est dans l'exemple, voilà. Mais il ne faut pas hésiter à dire que l'on prie pour eux. Et quand on est avec eux, il faut oser quelquefois dire « Est-ce que tu veux bien qu'on dise un jour « Salut Marie », etc. » Voilà. Ce sont ces petites choses, là, comme ça, des petits points de temps en temps, qui sont des petites flammes très intéressantes pour justement que le Seigneur aussi trouve sa place dans la famille. Et c'est une mission. Voilà. Il faut être missionnaire. Hein. Des grands-parents, c'est aujourd'hui des missionnaires.
Oui,
je suis convaincu.
Oui, oui, oui. Vous voulez ajouter quelque chose sur la place de la prière?
Je crois que la prière, oui, il y a deux volets, je crois, dans la prière. Il y a plusieurs volets dans la prière, mais ce dont on parle ce matin, il y a l'intercession, effectivement. Et c'est vrai que la famille prend de la place dans nos vies, donc elle prend de la place dans nos prières, c'est sûr. Voilà. Maintenant, leur faire savoir, communiquer avec eux sur ce sujet-là, je crois qu'effectivement c'est important. Et c'est là où moi, en tant que grand-père, je suis intéressé parce que c'est pas un sujet facile et je suis intéressé de savoir comment d'autres grands-parents le font. Hein, et j'espère que les ateliers dont on parlera tout à l'heure seront l'occasion justement d'échanger sur ces sujets-là. Donc intercéder, oui. Et puis l'autre volet, parce que nous avons des petits-enfants qui sont plus jeunes, qui sont jeunes, c'est-à-dire que l'aîné a 8 ans. L'autre volet sur lequel on se pose des questions, c'est la prière avec eux, l'exemple de la prière. Et ça, c'est un autre volet sur lequel on n'a pas des réponses extraordinaires de en ce qui nous concerne. Mais cette habitude de la prière en famille, elle est différente justement dans les fratries qu'on a dans notre famille. C'est-à-dire que on a famille où cette prière en famille existe et on en a d'autres où ça n'existe pas. Mm-hmm. Et c'est là où, à l'occasion des cousinades, enfin quand tous les cousins sont réunis, quand tous nos petits enfants sont réunis, il faut qu'on arrive à trouver la façon d'introduire cela. Mais bon, c'est pas un chemin facile. Parce que y a des rythmes différents et que il faut trouver la façon de leur en parler, mmh, et de les intéresser.
Delphine Laurent.
Oui, je pense que pour moi la prière, elle est avant tout personnelle et c'est quelque chose que j'ai du mal à faire avec quelqu'un d'autre, sauf quand je suis à la messe justement, où là on prie en communauté quand même. Donc c'est un chemin à faire quand nos enfants grandissent, c'est de leur faire des propositions et ça je pense qu'il faut qu'on réfléchisse avec Jean-Daniel sur ce qu'on peut faire à ce propos. Après il y a des circonstances, je me souviens d'un moment où mon petit-fils Raphaël, qui est quelqu'un de très sensible, très intelligent, etc., avait surpris une de nos conversations par rapport au décès d'une de nos amies et ça lui avait posé beaucoup de questions. Donc là on n'était plus dans la prière mais plutôt dans les questions, on va dire, d'ordre métaphysique, qu'est-ce qu'il y a après la mort, etc.
Voilà.
Donc en fait, en parlant comme ça, je me rends compte qu'on a un rôle qui doit être assez en toute délicatesse pour respecter, si par exemple on a des enfants qui sont athées, mais de leur dire c'est ça, puis on est sur un chemin de la prière, le chemin de la discussion, de toutes ces ces choses extrêmement importantes.
Alors, c'est vrai que les grands-parents, ils sont très sollicités et de plus en plus pour garder leurs enfants chez eux, soit en l'absence des parents parce que les parents ne sont pas encore en vacances, soit avec les parents qui sont en vacances. Là aussi, quelle juste posture avoir ? Vous parliez de la prière en famille. Est-ce que vous priez avec vos petits-enfants quand les parents ne sont pas là ? Et puis après, est-ce que la question se pose quand les parents reviennent ?
Oui, alors il ne faut pas se construire un rôle, quoi. Se dire, ah, les enfants sont là, donc on va prier. Non, c'est pas tout d'un coup un rôle, une espèce de... Parce que ça serait presque du théâtre.
Oui,
je crois qu'il faut être soi-même.
C'est pas naturel.
Et le fait, si on ne prie pas soi-même, c'est vrai que je ne comprends pas, c'est pas très cohérent de prier avec mes petits-enfants si moi-même je ne prie pas, voilà, déjà. Bon, c'est important la prière personnelle sur ce plan-là. Mais c'est aussi parce qu'on peut prier avec entre grands-parents que ça peut avoir cette conséquence d'avoir aussi à prier avec ses petits-enfants ou même avec ses enfants. Mais on va, par exemple, c'est très classique, on fait la crèche, par exemple. Bon, je crois que dans beaucoup de familles, on le fait. Et il ne faut pas que ça reste un objet de décoration. Et donc, il faut redonner son sens à cette crèche qui est au milieu de la famille en tout simplement se rassemblant. Et vous disiez qu'on a des fratries différentes. De fait, il y en a qui font peut-être la prière en famille chez eux et d'autres pas. Ben, c'est une excellente façon, avec beaucoup de délicatesse, bien sûr, de faire une sorte de minimum qui permet de construire quelque chose, même quand
un
on se place
commun.
Tous ensemble devant Dieu. Quoi. Voilà. Mmh. Après, là-dedans, chacun se met comme il veut, parce qu'on ne peut pas toucher à la conscience de chacun. Mais c'est là qu'on est dans les rites. Les rites sont là pour que la conscience de chacun puisse s'éclairer. Et il y a ceux qui sont peut-être plus moteurs que d'autres, mais là aussi, c'est cette circulation qui peut se faire dans la famille. Et donc, finalement, soyons ce que nous sommes, mais on l'est vraiment. Moi, je crois que des grands-parents qui prient, qui vont à la messe et puis qui se cachent par rapport à leur descendance, moi, je trouve ça dommage. Parce que de l'autre côté, on s'aperçoit que les jeunes aujourd'hui sont demandeurs. C'est plus la même génération. Nos enfants n'étaient pas demandeurs, en fait. Ils étaient plutôt critiques, on va dire. Alors que la génération suivante, elle n'est pas comme ça. Elle est demandeur de vie spirituelle. Et puis, comme vous disiez, les questions. Alors, les questions sur la mort et où est Dieu, etc. Alors, c'est des questions auxquelles personne ne leur répond. Et nous, grands-parents, pour ça, il nous est donné une chance, parce qu'il y a le lien familial, la tendresse qui peut aussi faire beaucoup là-dedans. Ça nous donne cette chance de témoigner de notre foi. Et ça passe d'abord par dire, ben moi, qu'est-ce que je suis par rapport à Dieu ? Et oser dire que moi, je prie Dieu tous les jours. Mais oui, c'est très important pour moi.
Mmh. Et cet exercice de construction, je rebondis sur ce que vous dites, Père, cet exercice de construction et de rite, il est particulièrement important, je pense, au moment où nous avons les petits-enfants sans les parents.
Oui.
C'est beaucoup plus facile, j'allais dire, de construire et de leur donner des habitudes quand les parents ne sont pas là. Parce qu'on est obligé, évidemment, de composer avec chaque parent et chaque façon d'éduquer.
Chaque sensibilité.
Donc cet exercice est important et c'est une opportunité. Et on a la chance, souvent, de pouvoir le faire. Et là, je rejoins tout ce qui a trait à la foi. On a souvent la chance de le faire à des moments qui, dans notre vie spirituelle, sont importants, c'est-à-dire Noël, Pâques, le 15 août. Donc, ce sont des opportunités qu'on peut saisir à ce moment-là.
Mm-hmm.
Et c'est encore plus facile de le faire si les parents ne sont pas là, j'allais dire.
En tout cas, on vous a entendu, Jean-Daniel Leroy, vous avez parlé de ces ateliers auxquels vous allez participer, qui sont proposés par l'association L'Oasis à Toulouse. Donc, je donne les dates. Le 22 janvier, 5 et 19 février, vous attendez de ces ateliers de pouvoir justement confronter vos différentes expériences entre grands-parents pour avoir en fait des idées, pour savoir comment vous y prendre.
Bah oui, nous aurons la chance d'avoir le Père Martin avec nous. Et c'est effectivement pour nous, on en a parlé ce matin, mais c'est que le début d'un échange, c'est pour nous l'opportunité, je pense, d'échanger avec d'autres grands-parents la façon dont ils abordent cette problématique avec l'éclairage que vous pourrez donner, Père, à cette occasion sur les trois ateliers qui ont trois thèmes différents.
Delphine.
C'est important, ces ateliers sont aussi ouverts à tous, qu'on ait la foi ou qu'on n'ait pas la foi. Ouais. Et c'est pas parce que c'est le père Martin Brevel qui l'anime voilà. que ce sera forcément que le thème principal sera le thème religieux. C'est pour ça qu'on a un peu voulu le séparer en trois thèmes. Donc le premier, ça sera notre mission d'unité de la famille. On pourra peut-être en redire un mot après si on a le temps. Mission d'éducation, on en a beaucoup parlé. Et aussi mission de transmission. Donc ça peut être transmission de nos valeurs, transmission de notre foi, oui, mais aussi, voilà. Donc ça, c'est important de... voilà, si vous êtes grands-parents, alors c'est vrai que si vous écoutez Radio Présence, il y a de grandes chances que vous soyez catholique pratiquant.
Pas seulement.
Ah ben voilà. Donc surtout ces grands-parents-là, j'ai une amie qui est complètement athée. Et je lui dis, mais tu as ta place, bien sûr. En plus, c'est une grand-mère solo, puisqu'elle est séparée. Donc oui, bien sûr, tous les grands-parents ont leur place dans ces ateliers.
Et puis vous aussi, Père Michel Martin Prével, dans le week-end que vous animez, le week-end Année Joachim, donc qui sera le 25 janvier au foyer de charité Notre-Dame de la Cépède, vous accueillez aussi tous les grands-parents.
Oui, tout à fait. Mmh. Alors, bien sûr. Mais, ceci étant, c'est parce que c'est un week-end, c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus poussé qu'un atelier de 4 heures, puisque bien ça sûr. Fait quand même 2 jours. Et de fait, on creuse beaucoup plus de questions et on partage aussi beaucoup. Là, c'est un week-end où on partage le vécu, voilà. Je voudrais ajouter aussi la souffrance que beaucoup de parents peuvent porter parce qu'il y a des enfants qui ne voient plus, des petits-enfants qui ne voient plus. Il y a des dissensions aussi très importantes. Alors ça rejoint la question du ministère de l'unité. Combien il y a aussi des dissensions, des frères et sœurs qui ne veulent plus se parler. Il y a toutes ces questions-là. Il y a aussi des confrontations violentes. Soit au plan de la foi ou au plan de la religion, etc. Donc tout ça, ce sont des souffrances, quelquefois, qui durent des années. Il y a la question des patrimoines, des héritages, qui laissent souvent beaucoup d'amertume. Hein. Et donc ça aussi, c'est au cœur du quotidien des gens. Voilà. Et donc c'est aussi ça pour lequel les gens veulent être réconfortés, savoir ce qu'il faut faire, quelquefois, et être confortés dans leur rôle.
Un mot pour terminer sur
l'unité. Oui, juste, quand on parlait justement grands-parents, artisans d'unité, je pense qu'on a ce rôle-là. Mais parfois, malheureusement, il y a des grands-parents qui peuvent être artisans de dissension, de désaccord dans les familles. Un peu comme dans n'importe quelle communauté humaine, dans une association, dans une communauté religieuse, etc. Sauf que sa famille, on ne la choisit pas. On choisit son conjoint, oui, mais on ne choisit pas ses enfants quand on a la chance d'en avoir. Bien sûr, on ne choisit pas ses petits-enfants quand on a la chance d'en avoir. Donc, moi, je crois beaucoup à l'idée de faire famille. Faire, c'est vraiment un verbe d'action. C'est comme aimer, c'est un verbe d'action. Donc, je sais pas, ça peut être du simple faire un gâteau au chocolat parce qu'on invite nos petits-enfants à déjeuner. Ça peut être aussi, je parlais tout à l'heure, par exemple, ma fille qui avait organisé un événement
oui,
familial.
Ça crée l'unité, justement.
Voilà. Mm. Et c'est faire unité, c'est vraiment ça. Quelquefois, ça coûte un peu parce que c'est fatigant. Mais le mot faire et faire famille est très important pour moi.
Jean-Daniel Leroy, sur cette question de l'unité, qu'est-ce que ça vous suggère?
Et je crois que c'est une question qui est difficile dans la mesure où la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, elle est très différente de celle dans laquelle on a éduqué nos propres enfants. Et donc cette unité, ça demande, c'est un rôle qui nous appartient en tant que grands-parents, certainement.
Qui demande beaucoup de souplesse.
Et qui demande beaucoup de souplesse et beaucoup d'ouverture. Et c'est la difficulté, c'est de s'adapter en permanence. À cette problématique, mais on en est les porteurs, c'est certain.
C'est un lieu d'expérience, de cette, on dit beaucoup aussi l'expression d'aujourd'hui, vivre ensemble, mais ça se construit, ça c'est pas du tout inné, quoi. C'est pas parce qu'on est de la même famille que forcément tout va aller bien, c'est pas vrai du tout. Je crois qu'il faut être très réaliste, et donc il faut construire, ça veut dire se développer des attitudes, en tout cas de bienveillance, de respect. S'il y a un sujet qui fait un peu clivage, eh ben, c'est pas ce sujet-là qu'il faudra certainement mettre en avant. Donc il y a toute une façon de se déposséder un peu de soi. Et parce qu'on est des générations qui sommes très très différents, comme c'est compliqué aujourd'hui de savoir que des personnes peuvent raisonner de façon très différente de vous. Et donc c'est une très belle expérience de s'écouter, d'être dans la bienveillance, d'être dans le respect.
L'humilité,
et de croire
alors.
Que chacun a cette capacité à se développer, avec les autres et pas tout seul. Donc c'est une expérience d'humanité impressionnante, voilà.
Oui. Avec la richesse d'être un couple de grands-parents. Donc c'est clair que c'est important de garder le dialogue entre la mère et ses filles, entre le père et ses fils. On a une diversité dans le couple qui fait qu'on peut le mettre à la disposition de cette unité.
Et c'est justement ce qui fait la richesse.
Oui, alors il y a aussi les grands-parents solo, hein, parce que...
Également, mais quand on a la chance...
Avec les divorces, on sait qu'il y a beaucoup de grands-parents qui sont en fait divorcés. Alors qu'est-ce que ça... C'est une autre posture, là,
C'est une autre posture, en tout cas, à travailler.
On n'a peut-être pas beaucoup le temps d'en parler. Non, et puis, il y a les veufs aussi. Moi, je suis un veuf et je vois bien qu'il me manque quelquefois la grand-mère, quoi. Ça, c'est... Donc, c'est un autre type de... Mais c'est dans les ateliers qu'on va aussi creuser tout ça.
Voilà, justement. Ce sera tous ces sujets que vous allez voir dans les trois ateliers que vous proposez aux grands-parents à l'Oasis à Toulouse les 22 janvier, 5 et 19 février. Et puis, au week-end, Anne et Joachim que vous animez, Père Michel-Martin Prével, les 23, 24 et 25 janvier au foyer de charité Notre-Dame de la Cépette, c'est près d'Agen. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie aussi Jean-Daniel et Delphine Leroy d'avoir participé à cette émission. Merci Père Michel Martin Prével.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.